Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Alors, dans cette deuxième tranche de l'émission, nous allons parler des maladies cardiovasculaires. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Quelles sont les avancées enregistrées dans la prise en charge des patients qui souffrent des maladies cardiovasculaires? Vous savez, ces maladies sont une cause majeure d'incapacité et des décès prématurés dans le monde entier. Selon l'OMS, elles peuvent affecter tout le monde, à n'importe quel âge, et selon les cardiologues, la sédentarité, le surpoids, ainsi que d'autres raisons, déclenchent ces maladies cardiovasculaires. Alors, comment les prévenir? On en parle avec notre invité. Il s'agit de Dr. Ochudi Noël. Il est cardiologue. Dr. Noël Ochudi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service qui s'intéresse aujourd'hui aux maladies cardiovasculaires. D'abord, avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous présenter, nous dire qu'est-ce qu'on entend par maladie cardiovasculaire?
Alors merci. Les maladies cardiovasculaires, pour faire simple, sont des maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux. Alors dans les vaisseaux, nous avons essentiellement les artères et les veines. Et ces maladies cardiovasculaires représentent actuellement la première cause de mortalité dans le monde. Parmi ces maladies, on cite par exemple les maladies coronariennes, c'est-à-dire sont des maladies qui affectent les artères au niveau du cœur. Il y a les accidents vasculaires cérébraux et il y a plein d'autres maladies qui affectent les vaisseaux. Et au-delà des maladies cardiovasculaires, il y a le concept des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont donc des facteurs qui favorisent la survenue de ces maladies cardiovasculaires. Et au nombre de ces facteurs, on cite l'hypertension artérielle en tête de liste. À côté, il y a le diabète sucré, il y a l'obésité ou le surpoids, il y a l'excès de mauvais cholestérol dans le sang, le LDL cholestérol, il y a l'augmentation d'acide urique et bien d'autres facteurs, la sédentarité et bien d'autres facteurs de risque.
Voilà, donc ce sont là les facteurs de risque. Donc quand on parle des maladies cardiovasculaires, il y en a plusieurs, mais on a l'impression que les gens voient beaucoup plus directement les AVC.
Oui, au-delà des accidents vasculaires cérébraux, il y a bien d'autres maladies cardiovasculaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des maladies qui affectent le cœur d'abord et ensuite les vaisseaux. Et au niveau du cœur, il y a beaucoup de maladies dont le terminus reste l'insuffisance cardiaque. Mais pour que le cœur atteigne cette phase terminale de sa maladie, qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, il y a bien d'autres maladies qui peuvent conduire le cœur à cette phase finale de sa défaillance. Et parmi ces maladies, il y a des maladies coronariennes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des maladies de rythme cardiaque et de conduction. Il y a plein d'autres maladies qui affectent le cœur et qui peuvent entraîner une insuffisance cardiaque. Au-delà du cœur, il y a les maladies qui affectent les vaisseaux, au nombre desquelles on peut citer les accidents vasculaires cérébraux, d'autres maladies comme les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, souvent favorisées par le diabète sucré. Et donc, au-delà de ces maladies, il y a des facteurs de risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont pour terminus également les maladies cardiovasculaires.
Et en RDC, quel état des lieux vous faites de ces maladies cardiovasculaires? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a beaucoup? Il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui en souffrent?
Alors, bonne question. Alors, en RDC, actuellement, les maladies cardiovasculaires, comme partout dans le monde, restent en tête de liste en termes de mortalité. Pour rappel, les derniers chiffres de l'OMS en termes de mortalité toutes causes confondues dans le monde, les maladies cardiovasculaires viennent en tête de liste avec près de 18 millions de décès par année. Et donc, toutes causes confondues, les maladies cardiovasculaires représentent à elles seules le tiers des décès dans le monde. Donc 33% des décès dans le monde sont dus aux maladies cardiovasculaires. Et lorsqu'on entre en République démocratique du Congo, en Afrique subsaharienne d'abord, on a des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle qui peuvent aller jusqu'à 50% de la population d'adultes âgés de plus de 40 ans qui font de l'hypertension artérielle par exemple. La plupart d'entre eux ne savent pas qu'ils font de l'hypertension artérielle. Et après, cette hypertension va évoluer vers une maladie cardiovasculaire qui est l'accident vasculaire cérébral. Et voilà, donc l'état des lieux est tel que les maladies cardiovasculaires actuellement sont extrêmement répandues dans notre milieu, mais il y a très peu d'informations au niveau de la population. Il n'y a pas beaucoup de sensibilisation. La cause, c'est que la plupart de ces facteurs de risque cardiovasculaire, lorsque ils s'installent, par exemple l'hypertension ou le diabète, au départ, on ne ressent aucun symptôme. Ce n'est pas comme la malaria où lorsqu'on fait de la fièvre, on peut soupçonner une maladie infectieuse, une malaria, on va vite à l'hôpital. Mais pour l'hypertension, lorsqu'elle commence, généralement, on n'a aucun symptôme. Et dès lors qu'on a plus de 40 ans, il est obligatoire de faire régulièrement, je dirais chaque année, un dépistage des maladies cardiovasculaires et de ces facteurs de risque, notamment l'hypertension et le diabète.
Alors, parlons à présent de aujourd'hui, vous dites que c'est les maladies cardiovasculaires sont parmi les maladies qui tuent beaucoup, mais actuellement dans les contextes de Covid, on a l'impression que toutes les autres maladies ont été balayées du revers. Il n'y a que Covid aujourd'hui qui enregistre des taux de mortalité très élevés.
Oui, effectivement, ça c'est plutôt un problème d'information. C'est comme ça que il est extrêmement important que les cardiologues haussent le ton et qu'ils rappellent les chiffres. Les chiffres restent jusqu'à ce jour en faveur d'une mortalité élevée des maladies cardiovasculaires. Jusqu'à ce jour, malgré la pandémie à Covid-19 qui fait énormément de ravages dans le monde, mais les maladies cardiovasculaires restent toujours en avance en termes de mortalité globale dans le monde. Et donc, il est extrêmement important que l'on rappelle la place de ces maladies dans notre milieu. Alors, cela ne veut pas dire que on va baisser les bras pour la Covid-19, d'autant plus que les personnes infectées par la maladie à Covid-19, pour la plupart d'entre eux, ce sont des personnes qui ont des comorbidités qui vont évoluer vers la forme grave de la maladie et vont mal évoluer, ils vont évoluer vers le décès. Et ces comorbidités qui aggravent la maladie à Covid-19, dans ces comorbidités, on trouve essentiellement les maladies cardiovasculaires. C'est comme ça que vous remarquerez, lorsque un patient qui a une maladie cardiovasculaire attrape une infection à Covid-19, ce patient-là a plus de risques d'évoluer vers le décès, contrairement à un autre patient qui n'a pas de maladie cardiovasculaire. Donc, dissocier les maladies cardiovasculaires de la prise en charge de Covid-19 serait une erreur. Il faudra soigner le patient, on le considère dans sa globalité. Un patient qui est Covid positif, si en plus il a des maladies cardiovasculaires, on ne s'arrêtera pas à soigner le Covid, on soignera également ces maladies cardiovasculaires qui d'ailleurs constituent un facteur d'aggravation de la maladie à Covid-19.
Bien, docteur Noël Otchoudi, quels sont les symptômes qui révèlent la présence, les signes qui révèlent la présence d'une maladie cardiovasculaire?
Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, généralement, sont des maladies qui évoluent vers une insuffisance cardiaque. Une insuffisance cardiaque qui est une incapacité du cœur à produire un débit sanguin suffisant pour maintenir les besoins, pour rassurer les besoins de l'organisme. Alors, lorsque le cœur devient insuffisant, la plupart du temps, le patient se plaindra d'un essoufflement. Un essoufflement qui commencera d'abord à l'effort. Lorsqu'il fait des efforts, il monte les escaliers, il marche, il se sent anormalement très essoufflé. Et cet essoufflement va aller en s'aggravant jusqu'à survenir pendant le repos. Alors au-delà de l'essoufflement, il y a la toux, tout simplement. Les patients qui ont une insuffisance cardiaque vont se mettre à tousser. Et ces patients-là peuvent présenter des œdèmes au niveau des membres inférieurs. Ils peuvent présenter un ballonnement au niveau du ventre. Et voilà, ça, ce sont des signes plutôt classiques de l'insuffisance cardiaque. Mais au-delà de ces signes, voilà, il y a d'autres maladies cardiovasculaires, par exemple, qui concernent le rythme cardiaque. Celles-là vont se manifester essentiellement par des symptômes comme les palpitations cardiaques, hein, qui s'ajoutent à tous ces symptômes que j'ai cités avant, notamment à l'essoufflement. Voilà, si en plus on a des palpitations cardiaques, et donc il faudra déjà voir un cardiologue.
Bien. Nous avons en ligne Lolou Ramazani de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Je voudrais savoir, en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires dont vous parlez maintenant, puisqu'il est dit par certains médecins que ces maladies surviennent souvent par l'alimentation et notamment les modes de vie de la population. Bon, ici, dans nos marchés, on trouve beaucoup d'aliments et beaucoup de boissons qui sont vraiment, qui sont pas correctes par rapport à ces maladies cardiovasculaires. Est-ce que n'est-il pas permis aux médecins, par exemple, de parler aux usines qui produisent ces aliments et ces boissons, de les interdire ou bien de mentionner sur les emballages de ces aliments, comme c'est le cas avec la cigarette. C'est ça ma préoccupation. Parce qu'on nous laisse manger comme il ne se devait pas.
Voilà, donc d'après vous, ce que nous mangeons contribue donc à l'éclosion des maladies cardiovasculaires. Docteur Noël, vous avez la parole.
Oui, je suis totalement d'accord avec l'auditeur de tout à l'heure. Je suis totalement d'accord avec lui. Effectivement, parmi les facteurs de risque qui favorisent la survenue des maladies cardiovasculaires, au-delà de l'hypertension et du diabète, il y a une mauvaise alimentation, parce que cette mauvaise alimentation va entraîner un excès de mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL cholestérol, qui seront en hausse dans le sang. Il y aura également une augmentation des triglycérides, il y aura une augmentation d'acide urique lorsque l'alimentation n'est pas correcte. Et donc, rien qu'avec l'alimentation, on peut augmenter son risque de développer une maladie cardiovasculaire. Au-delà de l'alimentation, il a souligné tout à l'heure le tabagisme et l'alcoolisme excessif. Ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Il est prouvé que l'alcool, par exemple, a une toxicité directe sur le cœur. Et donc, l'alcool va entraîner directement une maladie du cœur qu'on appelle une cardiopathie toxique liée à l'alcool. Et donc, ça peut entraîner une insuffisance cardiaque par la suite. Et le tabac, pareil, le tabac fait pareil. Donc, il est extrêmement dangereux. Il est prouvé chez les personnes tabagiques qu'ils ont 5 à 6 fois plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires que les non-fumeurs. Et donc, il est important que, par exemple, le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires puisse, bien entendu, travailler ensemble avec les instances nationales pour lancer des alertes, notamment aux sociétés qui fabriquent tous ces aliments. C'est vrai que nous restons responsables de ce que nous mangeons, mais il est extrêmement important que l'information passe au sein de la population. Et par exemple, pour l'utilisation excessive de boissons alcoolisées et du tabac, il est extrêmement important que le message passe, par exemple sous forme de spot publicitaire, que l'information passe. Parce que ce que l'on a remarqué, c'est que la population n'est pas très très bien informée sur le risque des maladies cardiovasculaires. Et donc il est important que l'on sensibilise et qu'on se fatigue pas. Voilà.
Bien. Maître Joël est à Kinshasa. Bonjour. Maître Joël, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, j'avais, vous savez, les AVC, hein, je vais dire, peut-être je vais insister sur ce point-là, les AVC font partie des maladies aujourd'hui dans nos hôpitaux qui conduisent les gens facilement à la mort. Et ces diagnostics-là, et si je peux dire, ces diagnostics qui est fait par les médecins des hôpitaux, et je vais vous donner un exemple important. Je veux que l'invité puisse un peu nous éclaircir. Si une personne est venue dans un hôpital, on constate qu'il a l'AVC et par conséquent, il doit être au préalable examiné par un scanner qui ne se trouve pas dans un hôpital. Peut-être dans pas la majorité des hôpitaux ici. Et que cette personne doit être transféré dans cet hôpital, ne serait-ce pour l'examen et le traitement, il pouvait revenir dans l'autre côté. Donc, je vais que l'invité puisse nous éclaircir par rapport à cet aspect-là sur le plan traitement de cette maladie-là, parce que sans vous mentir, c'est une maladie où, lorsqu'une personne arrive, on constate qu'il a l'AVC sur la fiche et l'hôpital n'est pas en mesure de traiter cette maladie, la personne doit être transférée et c'est peut-être en cours de route qu'il trouve la mort ou karma dans l'hôpital où on a constaté cette maladie, où on n'a pas d'intérêt les médicaments que la personne décède. Mmh. Cette maladie...
Les AVC.
Oui, les AVC. De quoi s'agit-il exactement? De quoi est provoquée cette maladie? C'est ce que vous pouvez dire. Parce que j'ai pu constater aussi par la constatation, par la non-satisfaction des besoins. Ou un parent, par exemple, est dans une famille où il n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins, surtout aux besoins des enfants.
Il commence à trop réfléchir et puis vite un AVC arrive.
Oui, parce que l'AVC, moi je pense, Jody, c'est aussi lié au cerveau. Moi je pense que le monsieur donne plus l'accès au cœur, qui peut interrompre ce mouvement-là qui fait très important dans le corps humain, mais il y a aussi le cerveau, moi à mon avis, le cerveau. Hein, vous savez, aujourd'hui, ce sont la non-satisfaction des besoins qui peut conduire une personne à rencontrer le vertige, mais aussi les problèmes de l'alimentation où nous consommons habituellement une seule nourriture ou soit une seule boisson qui pouvait nous conduire aussi à ces aspects-là. Donc, il doit y avoir de la facilitation dans ce domaine où la population doit être éclairée, à mon avis, doit être éclairée sur la manière dont il doit consommer. Vous savez, la nourriture, on ne voit pas
d'accord. À tout moment. Merci beaucoup. Nous parlons des AVC, des maladies cardio-AVC, des maladies cardiovasculaires en général. Quelles sont les avancées enregistrées dans la prise en charge des patients? Des questions et préoccupations composées des 081-890-63-94.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous parlons des maladies cardiovasculaires dans Capi Service. Docteur Noël Ochoudi, vous avez suivi Joël de Kinshasa tout à l'heure. Il dit qu'on enregistre beaucoup de cas des AVC dans la société aujourd'hui et la prise en charge parfois pose problème et puis la personne décède, les victimes décèdent un peu plus tôt, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cette préoccupation-là?
Oui, effectivement, Maître Joël a totalement raison. J'ai suivi religieusement son commentaire. Les accidents vasculaires cérébraux sont en train de monter en puissance dans notre milieu, partout dans le monde, mais un peu plus en Afrique subsaharienne, parce que simplement, à la base, il y a des facteurs de risque cardiovasculaires qui ne sont pas gérés du tout ou qui sont très mal gérés. Et donc, lorsqu'on voit un patient développer une maladie cardiovasculaire comme un AVC, un accident vasculaire cérébral, ça veut dire qu'au départ, le patient a été malade, enfin, il a eu un facteur de risque ou une maladie cardiovasculaire qui soit n'a pas été diagnostiquée ou soit encore cette maladie n'a pas été correctement soignée et la finalité, c'est un accident vasculaire cérébral. En quoi cela consiste un accident vasculaire cérébral? Pour faire simple, c'est que lorsque on entre dans le cerveau, on se rend compte qu'il y a des artères et des veines qui passent dans le cerveau. Voyez-vous, j'ai dit au départ que les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui concernent le cœur et les vaisseaux. Et pour les vaisseaux du cerveau, ces vaisseaux peuvent être bouchés par une matière qu'on appelle une plaque d'athérome. Cette plaque d'athérome est le résultat, pour faire simple, du cholestérol et de l'inflammation. Alors, ça c'est la première forme d'AVC que nous avons. On a au niveau d'une artère ou d'un petit vaisseau du cerveau, cette plaque de graisse avec de l'inflammation bouche une artère et donc le sang ne passe plus. Et puisque le sang ne passe plus, la partie du cerveau qui ne reçoit pas le sang sera abîmée. Or, vous savez que le cerveau, il contrôle le mouvement, il contrôle tous les gestes que nous faisons, il contrôle même la mémoire. Et donc, dans les symptômes d'AVC, on aura des paralysies, on aura des pertes des mémoires. La première forme, donc, c'est une obstruction au niveau d'une artère. Mais la deuxième forme, c'est il n'y a pas d'obstruction, mais l'artère, explose. Voilà, les petites artères, à cause de la tension qui règne à l'intérieur, et là, il y a généralement l'hypertension qui est à la base, la tension va monter et cette artère va carrément exploser. Il y aura du sang dans le cerveau.
Docteur, docteur, est-ce qu'on peut dire que ce sont les conditions de vie difficiles, le stress et tout ça qui font augmenter la pression interne?
Voilà, j'y arrive. Au fait, à la base, c'est l'hypertension artérielle, mais le stress est actuellement considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire à part entière. Parce que dans la littérature, très longtemps, on n'a pas cité le stress comme un facteur de risque, mais actuellement, on sait que lorsque un sujet est exposé de manière, je dirais, permanente à un stress, que ce soit un stress physique ou un stress psychologique ou un stress de quelque nature que ce soit, le stress en soi constitue un facteur de risque cardiovasculaire et ça peut élever effectivement la tension artérielle et provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Et donc voilà, c'est un problème qui est réel. L'accident vasculaire n'est qu'une conséquence d'un bon nombre des facteurs de risque qui n'ont pas été gérés à temps. Et donc voilà, à la fin, on a ce mauvais résultat. Et donc l'idéal, c'est d'agir en amont, c'est-à-dire de rechercher les facteurs de risque systématiquement dans la population adulte, plus de 40 ans. Il faut rechercher systématiquement les facteurs de risque pour éviter que cela n'évolue naturellement vers des accidents vasculaires cérébraux. Et pour répondre un petit peu à la préoccupation de Maître Joël, les AVC actuellement peuvent être soignés à Kinshasa. Hein, dans les grands hôpitaux à Kinshasa, les AVC peuvent être soignés. Mais le problème, c'est que dans le diagnostic de l'AVC, au-delà de ce que nous pouvons voir cliniquement, il y a la paralysie, il y a tous ces symptômes qui sont assez évidents. Sur le plan de l'hôpital, il va falloir faire un scanner cérébral. C'est comme ça que l'on peut, si l'hôpital ne dispose pas d'un appareil de scanner cérébral, on peut se voir obligé de déplacer le patient vers un autre hôpital qui dispose d'un scanner pour faire l'examen. Mais ça reste extrêmement compliqué lorsque le patient est dans un très mauvais état. Ce déplacement-là peut s'avérer dangereux. Il l'a souligné d'ailleurs, il y a des personnes qui sont décédées pendant le transport. Donc il est souhaitable d'avoir, au moins dans les grandes cliniques, d'avoir des appareils de scanner pour faire facilement des examens de scanners cérébraux. Et quant à la prise en charge hospitalière de l'AVC, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Elle fait intervenir le cardiologue, les neurologues, les anesthésistes et réanimateurs. Le nursing, hein, surtout le nursing, c'est extrêmement important, la kinésithérapie, parce qu'après, il faudra que le patient récupère la mobilité. Voilà.
On va accueillir Emmanuel de Lubumbashi et Melchior depuis Arou. Nous parlons des maladies cardiovasculaires. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, Emmanuel.
Oui. J'ai très bien suivi la prestation des docteurs. Il se penche seulement dans la phase où nous devons aller seulement voir les cas cliniques et autres. Mais ici, il n'a pas vraiment soulevé, en tout cas, les problèmes au départ. Parce que je suis d'abord, je voulais dire, je suis étudiant en santé publique. Quel est ça? Parce que avant d'y arriver à ce niveau, au stade clinique, quelles sont les mesures préventives? Parce que nous ne devons pas seulement nous pencher au stade clinique, nous devons aussi nous pencher à un stade qui est d'avance connu comme prévention. Je n'ai pas vraiment compris et je ne sais pas si le docteur se penche seulement au stade clinique.
Emmanuel, vous voulez dire quelles sont les mesures de prévention des AVC, c'est ça?
Voilà.
D'accord, merci. Melchior de Harou, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, vraiment, merci pour la thématique du jour. Nous félicitons l'invité. Vraiment, j'ai une petite préoccupation peut-être.
Laquelle?
Qui pourra? Oui. Je voulais demander de plus en plus, nous voyons, ce sont la médecine interne, femmes et médecine interne, hommes qui sont utilisés pour ces maladies. Je voulais demander s'il y aura une nuance au niveau de la pédiatrie pour cette maladie cardiovasculaire.
Qu'est-ce que vous voulez savoir si il y a quoi il y a un service de pédiatrie.
À la pédiatrie, on peut parler aussi de la maladie cardiovasculaire.
D'accord, merci. Docteur Noël, vous avez la parole.
Merci, je vais commencer par répondre à la préoccupation de monsieur Emmanuel, le premier intervenant de tout à l'heure. Alors, les mesures préventives, quelles sont les mesures préventives des maladies cardiovasculaires ou en l'occurrence des AVC? Je crois l'avoir dit au cours de mon intervention, je le répète. Au fait, la prise en charge clinique des maladies cardiovasculaires est très coûteuse, elle est très onéreuse. Par contre, la médecine préventive, elle ne coûte pas grand-chose, elle ne coûte presque rien, et c'est celle-là que nous voulons promouvoir. Et cela consiste en la sensibilisation et le dépistage. Je l'ai dit, il faudra qu'il y ait des dépistages dans la population adulte de plus de 40 ans, parce que dès lors qu'on a atteint ou dépassé 40 ans d'âge, c'est en ce moment-là qu'on devient un sujet à haut risque de présenter les facteurs de risque cardiovasculaire qui vont conduire plus tard aux maladies cardiovasculaires. Les facteurs de risque, je les ai cités, je le rappelle, il y a l'hypertension artérielle. Dès lors qu'on a plus de 40 ans, on est à haut risque de développer l'hypertension. Pour rappel, dans le monde actuellement, 30% d'adultes de plus de 40 ans font de l'hypertension. Et en Afrique subsaharienne, il y a des régions où ces chiffres vont jusqu'à 50% d'adultes de plus de 40 ans qui font de l'hypertension. Et toutes ces personnes qui font de l'hypertension ne le savent pas forcément. Aussi longtemps qu'on n'est pas allé à l'hôpital faire un dépistage, une mesure simple de sa tension artérielle, on ne saura jamais qu'on fait de l'hypertension. Et lorsqu'on développe cette maladie plus tard au fil des années, on peut commencer à présenter des symptômes comme des maux de tête, de la fatigue. Et en ce moment-là, la maladie s'est déjà installée et a commencé déjà à entraîner des complications. Et ça peut aller rapidement vers des maladies cardiovasculaires comme les AVC. Donc, pour faire simple, la médecine préventive, c'est celle-là que nous voulons promouvoir. La sensibilisation sur les dépistages des maladies cardiovasculaires. Hypertension artérielle, diabète, l'obésité. Éviter la sédentarité, éviter le tabagisme, éviter la prise excessive de boissons alcoolisées. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de toutes les bourses que d'aller se faire prélever la pression artérielle, d'aller se faire contrôler la glycémie. Voilà, c'est extrêmement, extrêmement important à faire parce que c'est le seul moyen pour nous actuellement de réduire cette montée en puissance des maladies cardiovasculaires, notamment des AVC. Donc, nous l'avions dit avant, nous le redisons, la médecine préventive, elle est à notre portée, à la portée de toutes les bourses des Congolais. Et donc, nous invitons les Congolais à un adulte de plus de 40 ans, faites-vous dépister des maladies cardiovasculaires. Voilà, donc là maintenant, je vais terminer avec la préoccupation du deuxième intervenant, qui voulait savoir si on peut parler des maladies cardiovasculaires en pédiatrie.
En pédiatrie, voilà.
Voilà, la réponse est oui. Oui, on peut parler des maladies cardiovasculaires en pédiatrie chez les enfants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en pédiatrie, il s'agit essentiellement des maladies cardiovasculaires congénitales. C'est-à-dire que c'est des maladies qui surviennent déjà chez l'enfant dans le ventre de sa mère, et l'enfant naît avec cette maladie. Hein, c'est souvent les maladies congénitales, parce que le cœur est un organe très solide. Pour qu'il tombe malade, il faut qu'il y ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des facteurs de risque. Or, chez les tout-petits, il n'y a pas vraiment des facteurs de risque, donc ils ne font pas des maladies cardiovasculaires comme les adultes. Chez les tout-petits, c'est plus des maladies congénitales. Et souvent, ça intéresse, sont des maladies morphologiques. Hein, soit il y a une communication anormale entre deux chambres du cœur, soit il y a une malposition des vaisseaux qui sortent du cœur. Voilà, c'est vraiment des maladies comme ça, congénitales, et il y a des pédiatres, des cardiopédiatres qui s'en occupent.
Voilà. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des avancées significatives dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires?
Oui, des avancées significatives, oui. Le monde en cardiologie, les choses évoluent extrêmement vite. Sur le plan international, déjà, il y a énormément d'avancées au cours des dernières recommandations internationales de prise en charge. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de changements et nous avons l'obligation ici en RDC de nous adapter à à ces recommandations. C'est vrai que en termes de plateau technique, il nous manque énormément de choses, mais voilà, nous devons faire justement ces plaidoyers auprès de nos autorités pour nous aider à être sur le même diapason que nos collègues qui sont à l'étranger. Là, par exemple, lorsque je parle de la cardiologie interventionnelle, hein, qui est cette partie de la cardiologie où le cardiologue peut poser un geste directement sur le cœur du patient. Par exemple, là, actuellement, ce qui peut être fait en République démocratique du Congo, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais c'est qu'actuellement, il y a déjà des stimulateurs cardiaques permanents qui peuvent être placés dans le cœur des patients ici en RDC, notamment par l'équipe du docteur Yves Loubenga qui est mon patron. Et donc ça se fait déjà. Il y a une cohorte de 70 patients environ qui ont déjà des piles ici en République démocratique du Congo. Mais la difficulté, c'est que l'activité elle est un petit peu, je dirais, lente et lourde parce que elle nécessite énormément de moyens que nous n'avons pas forcément. Et donc, voilà, nous voulons aussi lancer comme une sorte de plaidoyer aux autorités compétentes. Voilà, il y a les moyens sont là, les compétences sont là, mais les compétences sont là, mais ce sont les moyens qui manquent. Et si, par exemple, l'État congolais subventionnait ne fût-ce que l'implantation des stimulateurs cardiaques, cela aiderait cette activité à éclore et à prendre de l'envol.
C'est quoi un stimulateur cardiaque?
Voilà, un stimulateur cardiaque, pour faire simple, c'est une pile. C'est une pile auquel sont rattachés des câbles, qu'on appelle, des câbles au bout desquels il y a des électrodes. Pour faire simple, au fait, il y a des patients qui ont des cœurs qui sont fatigués ou des cœurs qui battent très lentement au point qu'ils sont exposés à faire un arrêt cardiaque à tout moment. Alors, ces genres de patients, ils ont besoin de se faire aider avec une pile extérieure qui sera connectée à leur muscle cardiaque pour permettre à leur muscle cardiaque de bien fonctionner et leur éviter de faire une mort subite. Alors, l'activité intrinsèque du cœur, l'activité électrique intrinsèque du cœur, lorsqu'elle est défaillante, il faudra mettre cette pile et c'est cette pile-là qu'on appelle le stimulateur cardiaque. On la place en dessous du muscle de la poitrine et les câbles vont être connectés, vont passer par des petits tuyaux qu'on appelle des veines et vont atterrir jusqu'au niveau du cœur, voilà, et ça va permettre au cœur de bien tourner sans s'arrêter. Et ça peut se faire déjà ici en RDC à Kinshasa.
Est-ce que ça va pas entraîner un confort de la part du patient, du côté du patient?
Alors, inconfort, non, pas du tout. Au contraire, lorsqu'un patient a un stimulateur cardiaque, ça veut dire que ce qu'il ne pouvait pas faire avant, il peut le faire. Notamment, un patient qui développait, je dirais, une insuffisance cardiaque à cause d'un cœur qui était très lent. Dès lors qu'on lui place la pile, le patient va se sentir mieux, il va reprendre sa vie comme avant. Et donc, inconfort, non. Au contraire, le patient, il se sent beaucoup mieux qu'avant. C'est plutôt ça. Donc c'est un traitement en soi, c'est un traitement qui remet le patient dans un état de confort qu'il n'avait pas avant.
Bien, nous parlons des maladies cardiovasculaires, des questions et préoccupations. Composez le 081 890 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Maladie cardiovasculaire, quelles sont les avancées enregistrées dans la prise en charge des médicales des patients? Safari, vous êtes à Iga Barrière et Norbert nous appelle des Colésies. Safari, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Quelle est votre question?
D'accord, j'ai suivi l'émission au cours de l'émission, j'ai suivi déjà que la maladie attrape tout le monde. Alors la question est de savoir qui amère plus, ce sont les enfants, les jeunes ou les vieux. Bonne journée.
Merci. Norbert de Colésie, bonjour. Norbert, vous êtes à Colésie, bonjour. Bien, merci. Docteur Noël, quelle est la tranche d'âge la plus affectée par les maladies cardiovasculaires?
Voilà, merci. La tranche d'âge la plus affectée par les maladies cardiovasculaires sont les adultes de plus de 40 ans. Les adultes de plus de 40 ans qui vont, eux, présenter des facteurs de risque que nous avons énumérés, donc hypertension, diabète, obésité, excès de tabac, excès d'alcool. Et puis, ce sont eux qui vont, par la suite, le stress aussi, développer les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est la population, la tranche d'âge des adultes de plus de 40 ans.
Voilà, mais certains affirment que les soucis, à quelqu'un qui, tout le temps, s'est fait des soucis par rapport aux problèmes d'argent ou à tel autre problème, court les risques de développer les maladies cardiovasculaires.
Oui, en fait, il existe un concept qu'on appelle les troubles psychosomatiques. Au fait, lorsqu'on parle des soucis, cela génère bien évidemment un stress psychologique. Et donc, on rejoint finalement le stress comme facteur de risque cardiovasculaire. Le stress qui va entraîner des modifications, entre autres, une élévation de la pression artérielle qui va entraîner cette maladie qu'on appelle hypertension, qui aboutira soit à un accident vasculaire, qui est une maladie cardiovasculaire, soit une insuffisance cardiaque, qui est aussi une maladie cardiovasculaire. Et voilà. Donc, c'est extrêmement important de savoir actuellement que le stress, sous toutes ses formes, stress physique, stress social, stress psychologique, stress émotionnel, le stress, sous toutes ses formes, constitue un vrai facteur de risque cardiovasculaire actuellement.
Christian Politassi nous a écrit sur Facebook, il dit « Selon certaines personnes, les maladies cardiovasculaires affectent beaucoup plus les riches. » Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, pour répondre à Christian, je dirais cette conception, elle date plus de 30 ans. Hein, lorsqu'on remonte à plus de 30 ans, on est avant les années 2000, on disait que, je remonte même plus loin, dans les années 60-70, donc il y a plusieurs décennies, on disait que les maladies cardiovasculaires, notamment les AVC, les maladies rénales, l'insuffisance cardiaque, étaient des maladies des riches. Au fait, on le disait parce que à l'époque, on sait que les riches vivaient comme les Occidentaux, donc ils mangeaient comme les Occidentaux et ils avaient un mode de vie occidental. C'est comme ça qu'ils souffraient de ces maladies qui déjà à l'époque en Occident faisaient des ravages. Alors actuellement, cette allégation n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que actuellement, tout le monde vit comme en Occident actuellement, à Kinshasa par exemple, dans les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi et autres. Nous mangeons des aliments qui sont bourrés de matières grasses, des aliments qui sont bourrés de sucre, des aliments qui sont bourrés de sel, et donc nos habitudes alimentaires se sont un petit peu occidentalisées. C'est comme ça que actuellement on retrouve les maladies cardiovasculaires dans toutes les classes sociales, pas seulement les riches. Il n'y a pas que les riches qui ont accès aux aliments gras. Maintenant, c'est tout le monde qui a accès aux aliments gras. Je ne suis pas en train de faire la contre-propagande de dindons qu'on vend dans les coins de rue, mais oui. Vous savez que tout le monde peut en manger et donc tout le monde peut développer de la mauvaise graisse dans le sang. Et donc, actuellement, toutes les classes sociales sont concernées par les maladies cardiovasculaires. Et donc, cette allégation selon laquelle c'est une maladie des riches, c'est complètement dépassé. Ça, c'était il y a plus de 30-40 ans que c'était vrai, mais actuellement, c'est totalement faux.
Bien, nous avons en ligne Jean-Claude de Kisangani et Norbert de Colosi. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour, c'est jeudi. Juste, je salue l'invité et j'avais mes deux préoccupations à poser à monsieur l'invité. Hein.
Quelles sont ces propositions?
Voilà, ma première préoccupation ou la question, c'est d'abord, est-ce vrai la service de médecine sur la maladie des AVC existe ici à la République démocratique du Congo. Pourquoi ainsi? Parce que j'avais mon grand-père ici à Kisangani qui vient juste de décéder récemment, à qui nous sommes allés à la clinique université de Kisangani. On nous apprend que mon grand-père est de cette maladie. Nous avons été transférés à Kinshasa. À Kinshasa, ça n'a pas tenu. Récemment, il vient de mourir en Afrique du Sud. Je ne sais pas. Est-ce que dans cette pathologie, il y a vraiment des spécialistes ici chez nous au Congo ou bien nous nous dépendons toujours des Occidentaux? Ça, c'est la première question. Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir quels sont les aliments préférables qui allaient peut-être interdits afin que cette pathologie ne soit pas atteinte à des hommes. Je pense que c'est ça.
Bien, donc votre grand frère est décédé récemment de l'AVC en Afrique du Sud. Vous étiez aux cliniques universitaires de Kisangani, ça n'a pas marché. Il a été transféré à Kinshasa et ça n'a pas marché aussi. Et vous voulez savoir si en RDC on est capable de prendre en charge ces cas des AVC. Norbert, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à notre invité du jour, le docteur.
Quelle est votre question?
Ma question est la suivante. Je veux que les docteurs puissent nous éclaircir sur ces questions. Est-ce que il y a donc je veux que les docteurs puissent nous dire les aliments qu'il faut consommer pour éviter pour se protéger contre cette maladie. Ma deuxième préoccupation est la suivante. Est-ce que quels sont les symptômes et qu'une personne peut sentir et peut se voir que non, si je vois ces symptômes.
Norbert, le docteur a parlé tout à l'heure des essoufflements, la toux, ballonnement de ventre et palpitations cardiaques, voilà. Bien, donc ce sont là quelques symptômes dont l'invité a parlé tout à l'heure. Alors, docteur Noël, vous avez la parole. La question de Jean-Claude de Kisangani, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire une bonne prise en charge des cas des AVC ici en République démocratique du Congo?
Oui, effectivement, pour répondre à monsieur Jean-Claude, je dirais oui, il existe des spécialistes, des services spécialisés pour prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux. En fait, dans mon intervention tout à l'heure, je disais que les AVC, dans leur prise en charge, nécessitent une pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs spécialistes qui entrent en jeu, et ce, selon la situation du patient, c'est au cas par cas. Un patient qui a un AVC qui est dans un état très grave, il verra à son chevet, il y aura un cardiologue, il y aura un neurologue, il y aura un réanimateur et une équipe de nursing. Donc, il y a une pluridisciplinarité. Pourquoi? Parce que, à la base, comme je vous ai dit, les AVC, c'est un petit peu comme la conséquence d'un certain nombre de facteurs de risque qui ont évolué pendant très longtemps et qui, finalement, entraînent une atteinte d'un organe qui est le cerveau. Cela est valable aussi pour le cœur, c'est l'insuffisance cardiaque. Pour les reins, c'est l'insuffisance rénale ou la maladie rénale chronique. Alors, lorsque l'accident est déjà arrivé, la prise en charge hospitalière, elle est très complexe. C'est pas une prise en charge que je pourrais résumer en 2-3 minutes aux auditeurs, mais sachez que c'est une prise en charge qui fait intervenir plusieurs spécialistes qui travaillent en équipe pour soulager le patient, et cela, c'est vraiment au cas par cas. Alors, les services pour prendre en charge les AVC. Bon, en Occident, par exemple, on a des unités qu'on appelle des stroke units, hein, des unités uniquement réservées aux AVC. Mais dans notre milieu, ces malades, ces patients qui font des AVC sont pris en charge dans des services de cardiologie, dans des services de médecine interne et dans des services de neurologie. Voilà, et je continue, dans les services de réanimation lorsque le patient et son état nécessite une réanimation. Et voilà, donc c'est vraiment une prise en charge qui est complexe. Que l'on ne pourrait pas exposer cela de manière assez brève comme ça aux auditeurs. Donc sachez que les AVC, la prise en charge, elle est un petit peu, elle est multidisciplinaire, mais elle se passe un petit peu au cas par cas, selon les cas du patient. Et pour la deuxième question de Monsieur Jean-Claude, les aliments, c'est aussi la première question de Monsieur Norbert. quels sont les aliments qu'il faudra, vous avez dit, éviter pour ne pas développer les maladies cardiovasculaires comme les AVC. Tout à l'heure, nous avons parlé essentiellement d'une alimentation très grasse, une alimentation qui contient beaucoup de matières grasses, essentiellement de la graisse d'origine animale. Voilà, cela peut entraîner à la suite un excès du mauvais cholestérol dans le sang. Et c'est ce mauvais cholestérol-là qui constitue en soi un facteur de risque qui va baliser le chemin pour l'installation des AVC. Voilà, donc en termes d'alimentation, il faut éviter de manger trop gras, il faut éviter de manger trop salé, hein, parce que une alimentation trop salée chez un patient qui est à la base hypertendu, ça va entraîner un déséquilibre de sa tension et ça va élever sa tension. Donc manger moins gras, manger moins salé, et lorsque en plus on a un problème de diabète, manger moins sucré. Donc pour faire simple, il n'y a pas d'aliments comme ça, je ne vais pas citer les noms d'aliments à interdire, je vais plutôt recommander à nos auditeurs de manger moins gras, moins salé et moins sucré. Voilà.
Bien, docteur Noël Otchoudi, cardiologue, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler des maladies cardiovasculaires. Il ne nous reste plus qu'à vous dire excellente journée et à la prochaine.
Merci à vous.
Likambo boko selinga mama, boko sambae, boko futae, baluka kamoto ya mwana moto boete, bolingi ninye. Likambo boko selinga mama, boko sambae, boko futae, baluka kamoto ya mwana moto boete, bolingi ninye. Likambo boko selinga mama, boko sambae, boko futae, baluka kamoto ya mwana moto boyete, bolingi ninye. Pepai bomona, bambo ya mwana pona makambo ya biloba loba, mama mama pona makambo ya songi songi, mama mama Ngai princesse Kiku, babo pinga ndeko popai. Papa singa sango ki sasa mobimba na ebatina te. Oh 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 mama. Ngai princesse Kiku. Papa singa ndeko panzai ki sasa mobimba na ebatina te. Ah ngai Kiku bafundinga balobi na bambisi mo pepe mama mama. Oh mama. Bofundinga na mama, bofundinga na tata, wape pai bomona, babo ya mwana pona makambo ya biloba loba, mama mama pona makambo ya songi songi, mama mama Presence nanga ebangi sakai. Elamba na kolata batongolo kongai. Suki soki na bongisi batongolo kongai. Bandeko na yebateo. Ah. Papa na Kiku, fungola miso. Balingito tika bana papo kwa manandenge ya mabe. Papa na Kiku, yambanga koyamba papa. Yambanga koyamba papa. Likambo nini na kombo na ngai boye. Nazali nano mwana, nazali nano leki. Nasi na bota, na bota bana. Papa na Kiku, Papa Zinga ki sasa mobimba na ye batina te mama mama oh mama eh mama oh mama oh Bofundinga na mama Bofundinga na tata wape pai bomona babo ya mwana eh 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 bona makambo ya biloba loba mama eh mama eh bona makambo ya songi songi mama ah mama ah Nani atinda bino bolinga mi pali bilongi mape bandeko yange mobali bomonaka ndenge atenda ka papa na kiku kiku papa na kiku presence nanga ebangi saka bango mosala ko fundanga balongo langa na mosala boko swande nini mama Naseli si bino mingie Naseli ndenge basala kanazali mwasi Kasi na kokisa ki ndenge bolingaki Naseli, naseli, ngai princesse kiku Nazamba ya mayombe Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama Bofundinga na mama, bofundinga na tata Wape pai bomona, babo ya mwana Bona makambo ya biloba loba Mama mama Bona makambo ya songi songi Mama mama Na boy bambote na bino Mbote bo pakoli malasi na mapoko Bo uti wapi Bopa koli dongo dongo Bolo bi bope sanga imbote Bona sala nini Ah, ngay kiku Bolo bi nangay boye Ngay mwana mabe Mabe nangay anini Mabe nangay rengi se mosaka Ngay princesse kiku Nana ye bingay te Eko ti nangay aki princesse Bolingi nateka E lampa ya mwese soki na lati Bino po dongolongay E bongi sakangay panyeko Oh mama, mama, mama Eh mama, oh mama, oh mama Bofundinga na mama Bofundinga na tata Wapie pai bomona Babo ya mwana Bona makambo ya biloba loba Mama mama Bona makambo ya songi songi Mama mama Akanga na yo na mbuli boy Ya kotala likambo likwelinga na mokili Na sali nini Na zali mwana nde ya moto Na ebani koyebana Baba mbinga sangu ya kobamba Eke na Bruxelles Sangu eke na Paris Elongwe na Paris eke na Amerika Komi na Japon Balo bili kambo ninyo yonga Na sali pandeko na zalaki Kolala, kolala, kolala Na longwe na pongi Ba ebi singa Likambo zali kotoko na maya mungwa Mama
Voilà, c'était la princesse Kiku, Luambo Makiadi et tout puissant Rock et Jazz. Et c'est pas sur cette note musicale que nous mettons un terme à cette émission de La Vie au Quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Polydor Basunga a assuré la mise en onde. Tati Mapuku était à la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, jeudi, Daniel Kachama. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.